En fait, mon but, c'était plutôt de montrer comment on faisait, par exemple, un numéro. Enfin, comment moi je faisais un numéro. Puisque je ne voulais pas que La Rivière Échappée soit une revue thématique. Donc, il n'y avait pas de thème qui était à l'origine d'un numéro. Il n'y avait pas non plus de problématique. Il y avait davantage l'idée de créer un livre à plusieurs voix. Tout à l'heure, je reprenais cette idée de livre qui, finalement, de livre en livre, de texte en texte, se constitue au-delà même des personnes qui l'écrivent individuellement. Hein. Eh bien, l'idée de la revue, c'était aussi ça, faire en sorte qu'il y ait comme une sorte de précipité au sens chimique du terme, quelque chose qui, à un moment donné, apparaisse et permette de mettre en évidence un certain nombre de liens. Alors, il y a notamment un panneau où j'essaie d'expliquer ça. Pour le numéro 4, je crois, autour de Stettier, qui était un numéro particulièrement riche et divers. D'abord, donc, parce que Stettier voulait un numéro entièrement à lui consacré, et ça n'a pas été le cas, et que je voulais surtout qu'il y ait aussi d'autres textes, mais des textes très divers. Et donc, j'essayais d'expliquer que c'est plutôt à partir, quand je reçois les textes, donc je sollicitais les auteurs, quand je recevais les textes, je laissais d'abord les textes reposer, je les lisais plusieurs fois, je laissais les choses reposer. Et petit à petit, en les relisant, parfois presque entre deux choses à faire, je les prenais, je regardais, il y avait des mots qui apparaissaient de l'un à l'autre. Ces mots portaient des sensations. Et finalement, de fil en aiguille, avec le temps, se tissait une sorte de cheminement, de parcours de texte à texte. Alors là, je me disais, il faut vraiment que je me mette au travail. Et l'idée, c'était de pouvoir réunir ces textes dans un certain ordre, mais que cet ordre fasse apparaître un parcours de lecture, un cheminement de lecture, pas quelque chose qui arbitrairement, en dehors même de la revue, puisse exister. Ce que je voulais, c'est que les textes eux-mêmes révèlent quelque chose dont ils n'étaient pas forcément conscients d'ailleurs, mais dont moi je percevais l'existence. Ce qui fait que les revues étaient souvent annuelles, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de temps passé à lire, à écouter, comme je pouvais. D'ailleurs, je suis très content d'entendre beaucoup de textes que j'ai lus, que j'ai relus, de les entendre. C'est une chance incroyable par les auteurs. Tous ces textes que je connais, pour beaucoup, sur lesquels j'ai travaillé, que j'ai lu ou que j'ai relu avec ma propre voix, tout d'un coup prennent une existence un petit peu différente. Donc oui, l'idée, c'était vraiment qu'un livre à plusieurs voix puisse exister. Ce qui n'était pas toujours évident, ce qui n'était pas toujours facile, mais c'est vraiment été le souci qui m'a toujours guidé. Et en ce sens, on était en quelque sorte une revue un peu atypique. Pour la collection, c'est un peu le même principe. C'était l'idée que, c'est ce qu'on essaie de montrer à travers les panneaux, l'idée qu'entre tous les écrivains, il y a un lien, ou une sorte d'écho, qui de livre en livre, finalement, permettent de tracer un parcours de lecture. Parcours parfois accidenté, parfois avec des surprises. Mais si on lisait tous les livres à suivre, on percevrait quand même une sorte de scintillement de cristaux qui apparaissent et qui forment comme une sorte de ligne d'horizon qui permettrait de franchir par le travers tous les livres. Et cette ligne, ben pour moi, elle n'est toujours pas fermée en tant que lecteur. Et c'est pour ça qu'on continue. Donc c'est pour ça que ces livres viennent de paraître. C'est pour ça que il y en aura d'autres qui paraîtront encore donc à l'automne et puis les années qui viendront. Dans La Rivière Échappée, il y a des personnes avec lesquelles j'ai pas pu faire de livre parce que les personnes sont très prises. Alors je pense à Esther qui donne tous ses livres à un éditeur qui a bien de la chance. Je pense à Fabienne aussi. Et alors, je leur ai demandé de participer à la revue, ce qu'elles ont fait. Et puis, il y a toujours à l'horizon quand même la possibilité d'un livre. Bon, et donc, ce qui prouve bien que la ligne n'est pas fermée. Et puis, bon, il y a d'autres gens parmi vous avec qui j'aimerais faire des livres aussi. Donc, ce qui fait que, du coup, ça, cette ligne-là me pousse à continuer. Donc, j'ai voulu quand même que Fabienne et que Esther viennent nous lire des textes. Je sais que Fabienne avait publié dans La rivière échappée. Et puis, là, tu viens de sortir un livre. Donc, si tu pouvais venir lire donc, quelques textes. Et puis après, Fabienne, je demanderai à Esther Tellerman.
Lente ascension de l'attente. À peine la couleur jaune et des sons traversent les lieux. Corps noué sur un songe, comme sur une mer. Neige, un trou noir se creuse et une forme, sur ce silence, continue de battre et d'apparaître. À n'importe quel moment. À ce seuil du désir, le corps tombe, excède toute chose, et les mondes prêts à rompre. Ce qui reste, les eaux, à droite et à gauche, au loin, fils, cordes, fines césures. Rien ne nous précède, la terre était vide, d'un sens et dans l'autre. Seule, la lumière d'une première scène, et l'imagination d'un plein été. Juin 2002. L'été se referme, je ne le sais pas. L'air est encore doux, je peux sentir la fraîcheur de son souffle, par instant, se pose sur moi. Je peux encore le voir, l'imaginer, attendre. Entre les battants des portes, j'envoie des lettres. Je cours jusqu'à la porte, je regarde de petits objets, mais je ne me souviens pas. Maintenant, je suis seule à savoir où je suis. Maintenant, je peux me considérer comme perdue. Alors, vivre sur quoi ? J'ai possédé un jour tout le calme des morts. Maintenant, je ne peux plus partir, rien ne peut plus m'émouvoir. Je regarde les petits objets autour. J'ouvre une enveloppe, je ne dors pas, je me réveille, je regarde autour de moi. C'est une passion et une mort plus terrible, vide de douceur. Un corps a dû tomber, on ne sait pas lequel, ne se relève pas. Il ne franchit rien, le décor ne bouge pas, reste dans une ombre, un recoin, là-bas, toute chose s'agite. Continue à tomber de loin en loin, même sans bouger et sans qu'on le voie. Maintenant on approche, dos à dos, joint de façon imparfaite, puis on s'en va enfin, on s'en va tout en pleurs. Il y eut alors le même bruit que font les membres, ils se séparent, nos doigts se séparent et les mains s'ouvrent. Une chose m'étonnait, c'est d'avoir pu rester debout. Je ne tombais pas à terre et je n'y comprends rien. Je n'ai pas posé la bonne question, je n'ai pas de réponse, je n'ai posé que des questions. J'ai demandé pourquoi. Je n'ai rien vu. Dans un lieu, le corps est donné à tous. Un autre jour, j'ai pensé à quelqu'un, je ne le connaissais pas, mais il avait disparu. Je n'ai pas bougé. Dans ma lettre, je ne disais presque rien. Je disais, je cherche quelqu'un, quelqu'un a disparu. Je ne le connais pas, il n'a jamais existé. Recopier une phrase dans un livre, l'océan, on ne pouvait pas y échapper. Les images sont toujours en accéléré, léger trouble, comme il dit des mots, du silence, de la fiction. Je ne fais pas un bruit, je marche lentement, il ne faut pas savoir que je suis là, je ne sais pas qui. Je dois faire attention, mesurer chaque mot. Je ne trouve pas de mots, je ne sais pas que je suis là. Les minutes et les gestes sont comptés. J'ai crié en muet, c'était comme une image vue de loin. Aucune lumière aujourd'hui, pourtant l'histoire continue. Un peu plus loin, porte des ailes, la mort se dessine, on fait exploser des visages, des corps passent ainsi, et on voit soudain dans un reflet, en larmes contre une vitre, un homme qui fuit. j'ai perdu ton visage de mort, je garde la douceur des lieux, vide, sans masque maintenant, il n'y a pas de trahison possible. J'ai rien d'autre.
Donc je vais vous lire une section de Terre exacte, qui est le dernier livre que j'ai fait paraître. Si je n'ai pas fait le livre avec Françoise, c'est que je n'écris pas beaucoup. J'ai navigué dans le vert, augmenté de vos ongles, davantage dans les paumes, j'ai lampé la non-réponse. Un reste, corde tendue vers l'extrême où ton regard tombe pour tomber avec eux. J'ai échangé les anneaux contre l'avide, voulant les sept rayons, buée, éclat de sel, soleil trop haut dans la faille de l'air. Au-dessus et en dessous d'eux est une vierge noire. Elle abrite l'enfant. Qu'il soit davantage teint, qu'il ruisselle entre nos quatre doigts. René, fils au fond des prunelles, ou cher, pris cher, dans les sandales dessine une terre exacte. Dessine les lames de fond et les collines dépouillées. Jadis fut l'or pour mourir dans la suture. Charme du champ se dissout dans deux, humilié, étréci, frappé, ayant perdu mémoire de leurs os, mais impassible, dans la cage où ils abritent le bourreau. Opposent à l'origine leur poussière, leurs yeux pour mourir dans les berceuses, la grêle musicale, à la pointe où tombe votre regard pour tomber avec eux. Vous rue dans un nom d'homme, là où s'en mêlent les étés, s'achève toute chose, l'une dans l'autre est déposée. Maintenant s'exhale de vos poumons une journée humaine. Tenez-vous droit, il restera l'offrande, les jacinthes et la cambrure odorante. Elle continue vos sanglots. Sûrement, je vous tiendrai serré jusqu'à ma nuit. Me sera accordée une promesse. Vous serez dans toutes choses, graines et cris. Au fond de vous reste le ver, charpente et forge. Enfance bandée jusqu'à l'écorchure. Je vous ai enchevêtré de rouge, tantôt jailli et tantôt suffoqué, tantôt prise à ma nuit, avant et après moi. J'ai voulu les cicatrices maternelles, toi, démembré, ouvert. J'ai mangé dans l'assiette du fou. Cherchant la matrice des accords, le métal noir où s'abîme, et en chacun ses sèmes, la pensée, une voie verticale, mais ombre glissante m'ont conduite dans l'entaille, où tombe votre regard pour ceux qui tombent. Si vous saviez les hardes qui voient le ciel de face, peut-être vous confondiez votre bigarrure qui veille ou se défait, qui menace ou s'amende. Ma langue te conforte où je suppose les fractures, ta peau plus noire que la voix du muet. Il vint puiser dans mes poumons les sept couleurs, un bain de bleu et encore ceux qui ne s'éveillent, presque tous dénommés, sans rivage ni désert, qui lamentent, qui dressent les poings noueux, qui brûlent ma prunelle. Joie pour celui qui erre dans ta couleur, retrouve les yeux d'ambre que le liquide avait éteints. Je t'avais regardé de face, Eurydice d'Afrique, trois fois perdue dans les écailles éparses. Chante en part et me retire. J'ai regardé de face le faucon et le lever de lune, mais vos effilochures bien plus, Eurydice, lèvent notre mort. Peut-on la prendre comme outil? Que valent les yeux mi-clos et les enfers furtifs? J'ai pleuré rose afin que tu te souviennes. C'était ravage et tour, ou bien une heure après l'autre, refuge au cœur, dans votre pli, grêle musicale sur les rivages, un nom d'homme. Mots abritant les angles qui coupent la cicatrice autour du centre rouge de deux occidents, attise le globe blessé orient qui pointe, ferveur plus haute, jette les escarbilles, éclats de sel et de sable ont brouillé la figure des dieux. Fouet sur les paupières, fouet sous les ongles, priez sur la verge, frappez plus dur les trois pôles. Ils sont lierre accrochés à la parole, image de plein droit. Histoire qu'on forge, te comble de conquêtes, forêts majestueuses et cavaliers sur la transparence de l'écaille. Alors gonflent les continents, inondés de trois cimes, étreignent les bras martyrisés. J'attendais que le ciel sombre dans l'odeur et les plâtres. Je me souviens, nous avions respiré les seuils, puisé dans le poumon les berceuses, les vrilles musicales, peut-être un chant où se dissout l'ultime de ton regard qui se dépose dans la poussière humaine. Un son très loin, près de la terre, il a glané les collines, les terreurs, nos os broyés. Il va dans le dépourvu, les pluies et les asiles, là où commence le cri à la pointe de ton regard qui tombe. Voici, la plupart étaient argile, cambrée et dormait près de la morte. bandés au long des routes et dans l'histoire de plein droit, il t'insuffle le suc pour mourir. J'ai effleuré en toi le vide au boire. J'ai attendu goutte à goutte de toi la fièvre, la tempête, plus une Olympe. J'ai attendu, tranchant d'une journée humaine.
Bien, donc nous allons passer maintenant aux deux livres qui viennent de paraître. Le livre de Sid Corman, c'est l'autre, et le livre de Dominique Kellen. Je vais commencer par le livre de Sid Corman, qui est un poète américain qui est mort donc, il n'y a pas tellement longtemps, en 2004, qui a vécu une grande partie de sa vie au Japon, qui a mené une revue, là aussi, une revue vie, en quelque sorte, puisqu'il n'a eu de cesse de ramener toujours l'origine, puisque c'était le nom de sa revue, à perpétuellement se renouveler. Donc je voudrais savoir si Barbara Beck accepterait de lire des textes en langue originelle, puisque Dominique a les textes.
Only you, to whom creation is due and does return, O death, are eternal. Through you do we let go and rest. Not happy, no, but free from ancient ache. To think of a dark night on a dark night confuses. The heart finds nothing to cling to. Released from fear, it merely rises to motions of slow time. We were, and the ghosts and nightmares of infancy stray like lost remembrances. Memory advances as life does. But what is memory to terror? What were we? What was the point to what we called life? Today, life seems to us mystery, miracle, even as death, all a shroud, seems to the living. And just as we lived fleeing death, so now do we flee the leaping flame we quenched, not happy ever, but free, for blessedness is as much denied the dying as the dead.
Les poèmes de Sid Corman sont en général beaucoup plus réduit, avec des vers très brefs, et se réduisant encore au fur et à mesure de ce recueil qui s'intitule donc Living Dying, Vivre Mourir. Toi seul à qui la création est due et retourne, ô mort éternelle, par toi nous laissons aller et nous reposons, pas heureux, non, mais libres des mots anciens. Penser à une nuit noire, par une nuit noire, est troublant. Le cœur ne trouve rien à quoi se raccrocher. Soulagé de la peur, il s'élève à peine au mouvement d'un temps lent. Nous étions, et les fantômes et les cauchemars de l'enfance dérivent comme des souvenirs perdus. La mémoire avance comme la vie. Mais qu'est la mémoire face à la terreur? Qu'étions-nous? Quel était l'intérêt de ce que nous appelions vie? Aujourd'hui, la vie nous semble mystère, miracle, comme la mort, dans son linceul, semble au vivant. Et tout comme nous vivions fuyant la mort, nous fuyons à présent la flamme bondissante que nous avons éteinte, pas heureux, jamais, mais libre, car la béatitude est autant refusée aux mourants qu'aux morts. Faire l'amour. Suis-je le seul enfant à avoir vieilli en vain? Les autres, semble-t-il, se sont tous plus ou moins débrouillés, ont appris à marcher et à parler et à se sentir chez soi, partout où ils se trouvaient, et pas moi. Je n'ai pas le coup. Pour rien, à part l'obstination et pour l'endurance, me découvrant le génie d'un corps dont le sens m'échappe encore. Même moi qui dis « je », petite étincelle de souffle que certains appellent « âme », je doute de cela même et suis étonné, bien sûr, quand cette femme, ma femme, se tourne vers moi, moi, pas moins, la nuit, pour être rassurée. Et moi, mi-souriant comme un idiot et mi-pleurant comme un égaré, je sais que nous sommes ce que nous étions, de petits enfants, comme la mort, notre mort, nous révèle de plus en plus en naissant.
Making love. Am I the only child who has grown old in vain? The others, it seems, have all somehow managed things, learned to walk and talk and feel at home wherever they happen to be. And I have not, have no knack for anything but obstinacy, for hanging on, finding myself the genius of a body whose meaning still escapes me. Even I who say, I, small spark of breath, called soul by some, doubt that and am surprised, of course, when this woman, my wife, turns to me, me no less, at night to be reassured. And I, half smiling like a fool and half crying like one lost, know that we are what we were, infants, as death, our death, reveals us more and more at birth.
Alors, Dominique Hélène, j'avais donc reçu des textes de toi pour le numéro 2-3 de La Rivière Échappée. Ça remonte un petit moment. Et puis ensuite, bon, y a eu comme ça une espèce de silence, de disparition. On n'avait plus du tout de nouvelles de toi. Et donc il y a quelques temps, on s'est retrouvés et tu nous as proposé donc des textes et que l'on a édités. Le premier volume s'appelle Les Petites Formes. Le second volume s'appelle Sport. Et donc le troisième volume qui manquait et qui est publié, et j'en suis très très content, parce que c'était une des promesses que je t'avais faites, que je m'étais faite, c'est donc ce volume Comme Quoi, qui signe donc aussi la continuation de la collection chez Henri Poncet, c'est-à-dire qu'en fait Henri Poncet va distribuer les livres en librairie, il va les faire connaître, il va les défendre, mais il me laisse carte blanche. C'était un peu une condition sine qua non. Et c'est moi qui fais les livres, qui les tape, parce qu'en général on me donne la disquette, mais qui les met en page, qui contacte l'imprimeur, qui choisit le papier, qui les regarde et qui les publie. Et ensuite tout ça est envoyé à Henri, qui lui s'occupe de diffuser les livres, de les défendre. Et avec Henri, on discute aussi de la mise en page, de petits détails. Donc il y a un dialogue, moi je trouve très intéressant. Et j'espère qu'il sera fécond. Donc je suis très content que ces deux livres paraissent pour continuer cette collection, La Rivière Échappée. Et je te demanderai donc de lire quelques extraits de Comme Quoi.
Oui, moi aussi je suis très content qu'il paraisse parce que ce livre du coup a été bloqué pendant un petit moment, enfin le manuscrit. Donc effectivement c'est un ensemble de 3 volumes dont celui-ci est le 3e et dernier parce que ça commence à bien faire. Donc je vais vous lire les premières pages. Corps sensible aux endroits prévus. Bien. Grosse poule passe, picore semble-t-il blé, maïs, n'importe. Cerise qu'on a laissée, grains de sable, comme dans vieille poésie, on tient thermos tiède. La main refait le coup du doigt plié façon chiffre. Il est entendu que c'est là l'exemple d'un monde plus vaste, en abrégé, où la langue de carpe désigne un instrument. Repli heureux dans sa disposition de phrase rêvée sans fin. Au sol. Pour entrer dans l'épaisseur de sa respiration, une patte où le corps s'accumule et se presse. Admirable est cet art des coups monnayés avec plus d'effet qu'une main n'en peut contenir, art subtil, d'apparence élégiaque et noble, et fait de l'oubli des douleurs. Comme d'un bord à l'autre, on ne voit qu'un bras se mouvant, et non là où manque, au geste, une lacune. Vers Holt, dans la régularité de l'allure, le vent vient tout contre soi, sans effort. La pensée se porte violemment au dehors, cherchant à nommer jusqu'aux plus imperceptibles choses, comme partie d'un corps trop étendu pour l'être. Oiseaux sans nom, avec leurs cris lancés dans les galets, leurs traces repliées derrière eux, choses vainement levées, pierres, cartes, mains contrefaisant un signe, sac et ressac. La question du lest. Si tout y est ou non. Un devant pour la boussole, pour la direction. On le suivra le corps penché. Dans le genre réveillé en sursaut, qui est un moment sans se reconnaître, pourtant copié sommairement sur quelque autre objet, laissant derrière une portion inerte et comme gourde, qu'on ne voudrait pour rien. Sorti de la peau très facile, mais il manque la moitié. Le Svin, mettons 4 Zandbad, plage vide, fin février. Nuages poussant leurs plaques d'ombre, qu'on trouve dans le retournement des morts. Pluviers, petits échassiers, troupes légères. Au large, 3 têtes en bonnet noir, l'écart un instant égal entre elles. Tout ce qui peut être quand on écrit. La poésie, la prose, l'endroit de la jointure. Elle se fait ou non, n'existe plus, par exemple, en 4 sur 12. Se contenant moins qu'il ne se défait d'une charge, parce qu'il va vers cette forme résolue de douleur, celle sans fin ni raison, la conscience de soi redistribuée, visiteuse, éparse, l'esprit ailleurs, les bras dans la pure soumission au geste ou à l'épreuve ainsi définie, des contusions de matière et de sang, toute la nature congestionnée, toute la face qu'ensemble il montre et qui les désigne, comme le verre et l'eau s'étreignent, s'essuient l'un à l'autre. Et l'élan de la vie deux fois payé, le pas réglé sur 8, lent à modéré, à quoi on se tient. Mesure, méthode, juste proportion, tous objets frappent également. Un vaste ciel déployé, une barque, la beauté marquant sa présence, un champ entre deux voies dans l'ombre. Des baies noires ou bleues parmi d'autres, petites cornes jaunes déjà mêlées de terre, qu'on mange pour se faire revenir le cœur et que le chemin s'inverse, le fossé, la trace laissée ou non. Elles sont, ces figures, comme des chiens errants. Leur ombre sur le sol, une surface. Au-dessous, la poche ayant crevé, s'épanche une ombre plus lourde, en sorte que se forme un dépôt où rampé est déjà s'élevé sous les regards. Où rampe jusqu'à une eau soluble qui est là, sur soi, et qu'on emporte. À la vue, rien de changé, le monde comme avant. Au toucher, presque une poudre. La peau, premier segment, des détails très neufs, d'une grande force. Le tout avance pêle-mêle, en véritable objet sorti des bras, et se forme. C'est plus juste, plus précis. La matière en est rassemblée, l'étendue saturée d'un seul coup, les dimensions idéales aussitôt réduites et atteintes, dépenses une fois faites, état contenant la pluralité des causes et des moyens, en quoi tout effet peut cesser. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce volume-là, et puis je vais, parce qu'apparemment l'usage était donc de montrer un certain renouvellement, donc bah, moi aussi j'ai un manuscrit inédit. Alors Françoise disait tout à l'heure qu'elle avait un assez fort rapport à la peinture. Moi j'ai un assez fort rapport à la maladie, alors je me suis dit allons-y. Donc ce sont des extraits d'un volume qui s'intitulera, quand il sera un volume, Câble à âme multiple. Des injonctions sont données, les monstres que nous sommes, ou que nous ne sommes pas, ou plutôt, mais aussi ceux que nous ne sommes pas, vont dans les boîtes. Elles sont assez proches les unes des autres et semblables dans leur forme générale aux cavités du cœur. Expression de la justesse, ils y restent, et pour certains d'entre eux, ils sont laissés sans limite de temps, sans qu'il soit même question de temps dans la condition qui leur est faite. Ils y cherchent, et l'on entend que nous y cherchons, une raison effective, comme un chien tenant dans sa gueule un os de chien. Ils ne comprennent pas, ou peut-être comprennent-ils, que le père qui meurt dans le fils qui meurt dans le père ne peuvent se toucher, encore moins converser plaisamment comme deux compagnons de hasard. Quand l'un est noir, l'autre est blanc. Si l'un joue avec les os de ses doigts, s'il plisse un œil, le second agit à l'inverse. Il va se démener au point que pas un seul atome de son corps ne sera en paix. L'essentiel de l'action se joue au sous-sol où on a placé les boîtes. Il y a des soignants et d'autres qui n'ont pas de rôle bien défini mais qui sont là au même titre que les premiers. La camionnette est arrivée jusqu'ici, peut-être en tant que véhicule, peut-être aussi pour amener dans le sous-sol la motorisation qui manquait. À la main gauche, les doigts sont placés dans l'ordre suivant, auriculaire, majeur, annulaire, index, pouce. À la droite, pouce, index, auriculaire, annulaire, majeur. C'est facile à retenir. À partir de là, ils parlent sans jamais reprendre leur souffle. On peut être sûr que dès l'instant qu'ils l'ont décidé, ils ne le reprendront plus de toute leur vie, quelle qu'en soit la durée. Ils récitent. Ils sont privés d'un quart environ de la langue, mais ça ne les gêne pas. On peut très bien réciter sans fin avec trois quarts de langue, hypothèse haute ou chiffre qu'on a, comme on fait toujours arrondi. Ce qu'ils s'inoculent, c'est un venin. Il est composé pour moitié d'un mélange de glaire et de fluide corporel et pour moitié d'une sorte de mare de café. Ce mélange est destiné à fluidifier davantage encore la texture. Il se l'inocule par les moyens les plus divers. C'est parfois une sorte de mola salsa versée directement sur les yeux et que certains avalent. Les noms de véhicules. Premièrement, brancard. Tu souilles, on change la laisse, matière molle, à forte odeur, tenace, qui prend à la gorge, très voisine de celle de la safétida. Tu la produis naturellement, les draps imprégnés sont irrécupérables, on jette, on n'éprouve rien, tu souilles 4 ou 5 fois par jour, tu es arrimé à la structure métallique au moyen de solides courroies. On les a d'abord choisis en cuir, puis on a opté pour l'élasticité d'un tissu éponge. On en prépare plusieurs, on leur imprime une torsion qui les rigidifie, on les réunit par trois qu'on tresse en manière de câble. On en obtient de deux sortes selon qu'on a plus ou moins serré. Les plus serrés sont agréables à l'œil mais peu commodes. On n'utilise pas. Les moins serrés sont d'une conception neuve. On garde. Ils allient confort et liberté de mouvement. Entre deux déjections, tu exprimes ta gratitude par des chants, de petits airs, des bonbons que tu distribues ou que tu laisses tomber sur ta route. Car le brancard est propulsé à vitesse constante et sa course ne connaît ni fin ni retour. Deuxièmement, Bernard, voire Bernadette. Troisièmement, Braillard. Constitué d'un rideau qu'on roule sur lui-même et d'un tuyau glissé à l'intérieur par l'extrémité la plus fine. L'allure et le chemin qu'il emprunte, s'il démarre, découlent des bizarreries de sa forme et du rapport entre ses différents diamètres. Quatrièmement, Vestal. Structure légère, sans option ni fioriture. Deux repose-pieds, un repose-menton, se conduit à plat ventre et sans le concours des bras. Posture aimable, censée favoriser la recherche du bien commun et l'établissement de la paix. Adopté par plusieurs papes et cardinaux, au profil psychologique pourtant très divers. On dit de la Vestale qu'elle est moelleuse et qu'elle accompagne et porte n'importe qui d'un état dans un autre. Mais l'infini qu'elle traverse est une prison. Au sol, des crachats. Au mur, des obscénités. La main qui a touché l'argent ne doit pas toucher le sexe. Il faut la tourner dans l'autre sens. Quel pourcentage de foi peut-on perdre dans la conversion? Cinquièmement, brancard, de nouveau. Cette fois, souillé, pas souillé, peu importe. Un vigile soignant de chaque côté, on introduit les membres dans des attelles, on bourde sédatifs, les doigts sont inversés, tension maximale, les articulations bien blanches, exsangues, l'os affleurant sous la peau. On passe en boucle un petit film sur double cylindre à défilement paysager, en variant l'inclination du siège. Tu peux voir. L'inclinaison, pardon. Sixièmement, Bernadette. Véhicule qu'on quitte à regret, réservé aux maladies orphelines, voire Bernard, et plus largement à toutes les maladies entraînant une asymétrie corporelle, qu'elle soit visible ou non, si la gêne occasionnée par ce déséquilibre parvient à exciter la pitié d'au moins un membre de l'organisme d'attribution des moyens. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.
Bien, pour terminer cet après-midi, je voudrais vous faire écouter donc deux auteurs que je compte publier dans La Rivière Échappée, que j'ai connus de manière différente. Olivier Goujat d'abord, qui n'a jamais publié, que j'ai connu par Didier Cahen, Il m'avait envoyé un manuscrit et je crois que le soir même, je t'appelais. Et parce que immédiatement, c'était évident que c'était évident que ça devait paraître. Et l'autre, c'est Thomas Hoguet, que j'ai connu par Anne de Stahl et qui avait travaillé sur André Dubouchet. Et donc, tu m'as envoyé des textes. Anne m'avait dit, écoute, il faut absolument que tu lises Thomas. Thomas, tu m'as envoyé des textes. Et là aussi, j'ai vraiment trouvé que c'était très, très bien. Donc, je voulais absolument que vous soyez présents et que vous puissiez lire les textes qui, j'espère, paraîtront donc d'ici quelques temps dans La Rivière Échappée. Olivier d'abord, Thomas après. Tout de suite, après ces deux lectures, vous aurez la possibilité d'aller regardez l'exposition autour d'un verre de vin ou de jus d'orange. Et puis, il y a également, me dit Mathieu, une table sur laquelle vous trouverez les livres de La Rivière Échappée. Et je signale aux abonnés et souscripteurs que je leur ai apporté les livres. Donc, qu'ils attendent patiemment. Je vais aller les chercher pendant qu'ils boiront un verre d'une substance liquide agréable au goût. Et donc, à tout à l'heure. Merci encore. Je vous laisse donc sur les textes d'Olivier Goujat et de Thomas Hoguet.
Donc il s'agit de la troisième partie du livre qui s'appelle Cernes. Cette partie s'appelle Bleu Rien et c'est quelques poèmes de la fin de cet ensemble qui a été écrit en fait pendant l'attente de jumelles. Voilà, donc il s'agit à la fois du féminin et puis du gemellaire. L'attente liée aux multiples phases d'un récit demeuré à l'état de grammaire. La loi implicite d'une injonction à la racine, il peut s'approcher du pluriel de ses propres ailes. Une autre voix, ou bien la sienne, recouvre ce bruissement de la source sans visage. Une structure simule et trouble un déni de part et d'autre d'une fêlure à naître. Deux visages or font signe. Curviligne et tendue, opérant le lissage du front et du regard. Mouvement, silence, attention fait voix. Bordure qu'une force échancre. Résorbe le nœud, sans nouage, brise le lieu du cadre, ne mire. Manquant à l'absence, ne veille plus son dos. Il revient à lui sur la ligne de partage. Un rapprochement de lignes enfonce sa largeur, l'espacement du temps, le poids de la courbe. Resserre le jour, incise l'absence d'exactitude. Ouvrir le cadre, faire fente d'un retrait de main. L'imminence sous la paume exposée respire. Venant du seuil, enfante ce double renversement de paroles finies. Deux voix en gestation, sous la membrane, nouent l'accord à la déliaison du chant. Ample, éclate la mesure, diffuse, précise disjonction de l'assemblance. La récitation trace un cadre, une porosité, sans suppléance. Au passage de l'air. Cette partition redouble l'espace, refend le seuil. Un coordonné, il pose non l'image, la main en surface. Réel, sous la peau, couve et bas, mesure de l'instant. Comble, le corps déliné, recèle en chair toute féminité. Il touche à la limite, veille l'esquisse claire, loin de se confondre. Hors miroir, de proche en proche, sa main rassure, ne définit pas. Geste s'efface, sans arrêter ni forcer le trait. Un dénouement, il se traverse, lieu sans lieu de l'écart.
singulière mise à jour d'une ligne hors dessin. La transgression de l'image se dépeint comme ombre non portée. Concevoir délie le corps entravé de la délivrance. L'annonce du féminin offre un parcours pluriel, non prévenu du temps. L'une et l'autre baignées, ils disposent à la pesée de leur comparution.
J'ai aimé un lac profond d'eau pure, et j'ai cru pouvoir être cette eau, transparente sous des mètres de glace, en taille profonde dans les reins de la terre, poignard d'absence. Ou plutôt j'ai cru pouvoir être quelque chose qui n'était ni dans la glace ni dans le clapot, mais dans les figements et les débâcles de l'eau, sans la perte de la transparence, et dans le vertige d'une profondeur subite. Je n'avais pas imaginé que tu te dédoublais dans cette fontaine flétrie de la ville prochaine. Je n'avais pas vu à l'envers de toi battre ce bassin croupi où la Russie cinglait de rouille son enfance, comme à la moindre épiphanie d'eau fanée, ces éclats de jouvence indienne. Dans la fumée des palissades, sous l'œil torve d'un vieux tank muet parmi les mues d'obscures mélèzes, et la débâcle des bouteilles brisées, tes sons de lac, artères ouvertes. Pivot, vos eaux se mêlent. Rotule choquée d'une fontaine publique, Baïkal, tes vannes sautent, et l'Angara n'en finit pas de s'en aller de toi, de t'enlever plus d'eau que pluies et rivières ne t'en donnent, et c'est une source qui te perpétue, beauté sans frein, jamais. Visage d'obsidienne retranché dans ces quartiers d'hiver, palissade des neiges pour l'obstination et la fréquence de tes mues, dépouille brève sous la croix de quelques épieux d'oubli instable gibet du froid, où fut potence hauturière, ce surcroît de blancheur au charroi de la nuit, remparts accrus de la neige, remparts indécents de naïveté sans mesure. Lac intact, ratissé pour rien, lac sans passé, refermé sur l'envol des oies à tête barrée.
Bien, je vous remercie. Je remercie aussi beaucoup à la bibliothèque Marguerite Audoux et merci aussi à Mathieu Brousseau. Et je vous remercie beaucoup d'être venu cet après-midi.